Avec les récents débats au Canada autour du projet de loi C-11 visant la protection de la vie privée des consommateurs et le projet de loi 64 au Québec qui promet de moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, nos données sont au cœur de toutes les attentions. Elles sont partout, mais elles sont aussi menacées. Elles naviguent sur Internet, elles nous suivent lorsqu'on fait notre épicerie, lorsqu'on prend le métro ou bien encore lorsqu'on doit se rendre à l'hôpital. Mais nos données, au final, nous appartiennent-elles vraiment? En les partageant, a-t-on cédé aux géants du web la part la plus intime de nos personnalités et de nos histoires? Et qu'en est-il de nos industries, de nos entreprises? Ont-elles, elles aussi, abandonné leurs données aux mains des géants? Sont-elles aussi vulnérables que nous face au risque de fuite et de dépossession de nos secrets? Se protègent-elles, s'organisent-elles et peuvent-elles compter sur le soutien des lois et règlements pour en garder la pleine maîtrise dans des domaines aussi névralgiques que la défense, la santé, l'agroalimentaire ou bien encore l'aérospatiale? Face aux risques, mais aussi face au potentiel que constitue la quantité phénoménale de données produites, comment transformer ce vivier en une véritable richesse collective, une richesse patrimoniale pour nos organisations? Passer de collecteur de données à bâtisseur, voilà sans doute la grande aventure à venir de nos industries et de nos entreprises. Alors y sommes-nous prêts? Laisserons-nous aux Google, Amazon et Facebook de ce monde le pouvoir de décider à notre place? Ou bien au contraire, saurons-nous atteindre une forme de souveraineté sur nos données? Nous avons fait appel à un expert pour nous aider à y voir un peu plus clair.
Souveraineté des données, sommes-nous maîtres chez nous? Un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Regnault.
Pour nous accompagner donc Henri-Paul Rousseau, professeur associé à HEC Montréal, professeur invité à l'École d'économie de Paris et président du conseil d'administration de Nouvelia, une firme qui offre des solutions de gestion d'inventaire pour les entreprises. Alors on vous connaît aussi, Henri-Paul Rousseau, pour avoir été président et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada, mais aussi et surtout, dois-je dire, pour avoir occupé le poste de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonjour à vous, Henri-Paul Rousseau.
Bonsoir monsieur, c'est un plaisir de vous rencontrer.
Eh bien merci d'avoir accepté notre invitation en virtuel, évidemment c'est de rigueur en ce moment, on l'aura bien compris. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter ceci.
Savez-vous qu'il y a une étude menée par l'Université Stanford qui démontre qu'après seulement 150 clics « j'aime » sur Facebook, eh bien, l'intelligence artificielle arrive à dresser un profil de vous qui est plus précis que ce que peut faire un membre de votre propre famille.
Alors, on vient d'entendre un extrait de l'émission La Vérif, diffusée sur Radio-Canada le 21 mars 2018 et consacrée à la question de la protection des données personnelles. Alors, on a choisi cet extrait parce qu'il est très parlant. Au bout de 150 clics « j'aime », on nous dit le fameux « like » en bon français, l'IA de Facebook nous connaît bien mieux que notre propre mère. C'est assez fascinant et en même temps, c'est assez déroutant. Ça illustre le potentiel inouï de l'IA et des données de masse et le pouvoir que détiennent les grandes plateformes du web sur nos vies. Henri-Paul Rousseau, est-ce qu'en tant que société, on a perdu le combat pour le contrôle de nos données personnelles?
En fait, je dois dire que ça nous aide pour la question si on peut distinguer les données personnelles des données industrielles ou agroalimentaires, d'accord?
Alors là, on va s'occuper pour l'instant des données personnelles, hein. On s'entend.
Pour les données personnelles, si on reculait dans le temps et ce serait à refaire, en fait, on pourrait imaginer un monde où chaque personne à qui on a demandé un jour « est-ce que vous êtes d'accord à donner vos données ?» Si chaque personne avait dit non, je voudrais savoir ce qu'on va me donner en retour, le monde serait différent. Évidemment. C'est assez simple ce que je dis là, mais c'est fondamental. Mais en fait, le point de départ, c'est qu'on a donné gratuitement nos données, par un, clic par clic, jour après jour, à un grand nombre de fournisseurs à travers le monde.
Mais en même temps, Henri-Paul Rousseau, c'est l'état d'esprit général de nos populations quant à ce sentiment de dépossession de nos données personnelles, la fameuse question que vous dites, on aurait dû leur poser, elle est là. Selon un sondage d'IBM Canada qui date de 2019, 7 Canadiens sur 10 ignorent qui détient leurs renseignements personnels. Près des 3
quart des Canadiens affirment également ne pas savoir ce qui advient de leurs informations personnelles. Et un sondage CROP réalisé l'an dernier pour le syndicat canadien de la fonction publique nous révèle que 4 Québécois sur 5 sont inquiets quant à la protection de leurs données personnelles. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation, à un tel sentiment d'impuissance?
On est arrivé là parce que, je vous le répète, on a simplement concédé un par un sans s'en rendre compte un peu. Hein. Ça a été fait spontanément. Maintenant, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut reprendre le contrôle?
Tout à fait.
Eh bien, je pense que c'est là qu'il faut se poser. C'est une question à plusieurs volets. Le premier, c'est, je dirais oui, dans la mesure où certaines lois, comme celle qui était faite en Europe sur le contrôle des données, qui stipule qu'en fait, que comme individu, vous avez le droit de connaître qui a vos données, quelles sont, où elles sont, et même de demander à celui qui a des données sur vous de les annuler. Donc, cette loi européenne qui a été faite, maintenant inspire plusieurs pays du monde pour arriver à donner un certain pouvoir à l'individu que nous sommes de récupérer nos données ou du moins les annuler. Ceci dit, ça ne veut pas dire que demain matin, nous allons tous le faire. Mais et ça ne veut pas dire que ceci aurait des conséquences aussi souhaitables qu'on souhaiterait. La bataille actuellement sur les données personnelles, il y a trois choses importantes. Il y a d'une part le fait qu'elles servent, ces données, à nourrir des institutions qui font des études sur nos comportements. Elles servent aussi à faire en sorte qu'il y ait un accès à beaucoup de nouvelles qui sont générées sur les médias sociaux et qui sont gratuites pour ceux qui les répandent. Et elles servent aussi, éventuellement, à faire des travaux sur qui nous sommes. Alors, dans la mesure où on pourrait récupérer notre droit aux données, oui, on peut penser refaire l'histoire, mais je suis pas très optimiste là.
Oui, c'est ce qu'on semble dire. Puis il faut quand même dire aussi, et dans les exemples que vous citez qui sont assez parlants de ce qu'on peut faire avec les données, il y a aussi un pouvoir d'innovation remarquable qui peut se faire grâce à justement à la gestion des données. On prend le cas des données en santé qui permettent à certains algorithmes en imagerie de dépister des maladies à partir de radiographies, de manière parfois plus exacte que les professionnels du milieu. C'était remarquable, non?
Oui, mais là, vous tombez dans un autre domaine qui est, je crois que les individus, s'ils étaient capables de comprendre et d'accepter que leurs données ne seront pas nominatives, d'accord, mais qu'on prendra l'information qui les concerne dans une banque de données pour des fins de recherche. Il y a, par exemple, en Angleterre, un grand nombre de citoyens britanniques qui ont accepté de faire partie d'une banque de données qui sert à faire des études épistémologiques et des études en santé, et c'est très bien ainsi. Donc, il y a une distinction à faire entre le côté nominatif, c'est-à-dire est-ce qu'on va reconnaître que c'est cette information...
Et l'anonymisation, c'est ça.
La rendre anonyme pour que là, on puisse la traiter. Alors, on a un grand défi ici pédagogique de convaincre les gens que si on a la capacité de rendre anonyme la donnée, elle sera utile à la société. Surtout dans le domaine de la santé, mais dans tous les domaines de la politique publique en général. Bon, on a un grand défi parce que on n'a pas été capable de le faire assez tôt dans le domaine privé, et là, c'est difficile pour les gens de comprendre qu'on pourrait le faire aussi pour le domaine, je dirais, de la santé et d'autres éléments de politique publique. Donc, les données personnelles, où ça fait mal et où on entend beaucoup de choses, c'est tout le secteur des médias. Et vous avez vu actuellement le débat entre les grands de ce monde de l'informatique et du numérique, donc les GAFA, ouais. Et le gouvernement australien qui, lui, a proposé une approche différente. Donc, c'est un phare qui est un peu allumé là en Australie. On verra ce que ça va donner. Mais ça pourrait inspirer plusieurs pays à approcher différemment la question des données personnelles sous l'angle de la protection des médias traditionnels et du journalisme traditionnel.
Mais si ces données personnelles sont maîtrisées ou du moins contrôlées, ou en tout cas si on garantit une certaine anonymisation à leurs propriétaires finalement, aux citoyens, ouais. On voit quand même qu'il y a des innovations sociétales remarquables, parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai que dans la grande majorité de l'esprit de la population, c'est un peu on a l'impression qu'on s'est vraiment déposé posséder de notre vie privée. En même temps, ça a aussi un intérêt pour, justement, la société. On devine tout le potentiel sociétal de cette gestion des données, notamment, comme vous l'avez dit, dans différents domaines tels que la santé, mais on pense aussi à l'agroalimentaire, on pense aussi, évidemment, à la défense. Tout le potentiel aussi économique énorme derrière tout ceci. Est-ce que ce potentiel, il est suffisamment exploité ici, au Québec, à vos yeux?
On est au début de la transition numérique au Québec comme ailleurs. Je crois qu'il faut faire une grande distinction entre les données personnelles et les données industrielles. Les données personnelles, c'est très compliqué parce que chacun de nous, on est amené à utiliser les communications et le faire. Mais dans le cas de l'industrie, il y a quand même des façons de faire qui pourraient permettre à des filières industrielles de contrôler davantage leurs données. Et là, il y a un risque important, et c'est ce que je soulignais dans un travail récent, c'est le fait que l'Internet des objets, qu'on appelle, c'est-à-dire le fait que les objets sont interconnectés, elles permet d'avoir l'information sur... Je prends l'exemple d'un agriculteur qui achète un fabuleux tracteur et l'équipement de ferme. Eh bien, en général, ces équipements sont maintenant très bien équipés d'instruments de mesure qui permettent de mesurer la performance non seulement de la machinerie, mais aussi la performance du sol et même de tout ce qui se passe autour de cette machinerie. Le résultat, c'est que ces données agricoles ou agroalimentaires peuvent facilement fuir le fermier et se retrouver dans les mains du fabricant du tracteur ou de l'équipement. En d'autres mots, il y a lieu, dans le cas des industries, de pouvoir contrôler à la source même la question des données si l'industrie décidait, par exemple, de se doter d'une infrastructure numérique pour partager des données collectives et avoir une certaine règle autour de la propriété et de la gouvernance des données.
Donc,
c'est très différent parce qu'on a maintenant, on a des institutions, des entreprises, et il y a déjà des cas ailleurs en Europe et dans le monde on a un contrôle sur les données industrielles. Et je pense que ça devrait se faire au fur et à mesure où, dans le fond, notre retard que vous appelez dans la numérisation est un peu un avantage, parce qu'on peut profiter de notre retard pour bien faire les choses.
Absolument. Alors, on va y venir dans le détail, justement. Et vous voulez, et on le sent, vous voulez venir à ces données industrielles. Alors, on va rentrer dans ces données industrielles. Justement, aujourd'hui, elles sont pour la plupart éparpillées dans des écosystèmes éclatés. Vous preniez l'exemple de l'agroalimentaire. Vous et vos collègues du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, vous avez démontré lors de nombreuses études qu'on se retrouve quasiment face à une bête à plusieurs têtes, à une hydre à plusieurs têtes, lorsque vient le temps de déterminer d'où proviennent les données de cette industrie. Les producteurs, ils en créent dans leurs opérations quotidiennes. Comme vous l'avez dit, elles sont partagées avec les fabricants de machinerie, les équipementiers, mais elles sont aussi partagées avec les centres de recherche universitaires, les établissements vétérinaires. Il y a certaines associations à Grenoble qui ont accès à une partie de ces données, d'autres non. C'est un peu le Far West. Est-ce que cet état des lieux dans l'agro, il est à l'image du secteur industriel dans son ensemble au Québec?
Pas uniquement au Québec, c'est un peu comme ça un peu partout dans le monde. On est au début d'une véritable révolution qui est la révolution numérique. Et tous les acteurs, qu'ils soient agriculteurs, producteurs, transformateurs, qu'ils soient manufacturiers, distributeurs, tout le monde réalise qu'en plus de produire, disons, des denrées ou de produire des fruits ou des légumes ou peu importe, ils sont aussi producteurs de données. Et la raison, c'est qu'ils utilisent des instruments qui sont très sophistiqués, lesquels instruments captent des données, et ces données-là, lorsqu'elles sont captées, elles doivent être gérées, emmagasinées, réglementées, gouvernées. Et là, il y a une distinction à faire entre l'entreprise, disons, une ferme ou une usine de transformation ou une usine manufacturière, l'entreprise, donc micro, et l'industrie. Alors, pour répondre à votre question, je pense que la seule façon dont on peut espérer qu'il y ait une bonne gouvernance des données, tout en respectant, d'une part, le caractère confidentiel et compétitif et industriel de la donnée qui concerne une firme, une entreprise, versus ce qu'on peut partager dans une industrie. Et là aussi, il y a des technologies et des modèles de gouvernance qui permettent justement à une filière, disons la filière des producteurs de fruits et légumes, qui pourrait s'organiser autour de certains concepts de gouvernance pour dire, bon, ben voilà, on va protéger la donnée au niveau micro de l'entreprise et on va partager certaines données concernant la logistique, concernant le transport, concernant la chaîne de froid, la distribution, qui vont permettre à ce que notre industrie soit plus performante. Et ça, c'est tout à fait possible de se faire, mais ça nécessite qu'on voit la donnée non seulement comme un bien privé, mais comme une partie d'un bien public, au sens public.
Un patrimoine commun. Ouais, c'est ça, un patrimoine commun.
Voilà.
Mais là, on arrive justement à ce fameux enjeu de souveraineté des données. Vous avez déjà déclaré à plusieurs reprises, il est minuit moins une à ce sujet. Vous tirez en quelque sorte la sonnette d'alarme et vous prenez la mise en place de mesures urgentes pour atteindre cet objectif dans le domaine industriel. Cette urgence-là, elle s'explique par le fait qu'il y a quoi ? Une déperdition de valeur, de productivité ? Qu'est-ce qui justifie une telle urgence, Henri-Paul Rousseau ?
L'urgence, c'est parce qu'on est au début d'une grande transformation qui est la numérisation. Cette transformation va durer pendant de nombreuses années. Au fur et à mesure où les entreprises découvrent les bienfaits de la robotisation et de la numérisation, ils vont changer la machinerie, l'équipement, même le design de leur entreprise pour se numériser. Au moment où ils vont le faire, c'est très important de réfléchir, OK, je vais numériser quoi? Comment je vais le faire? Quelles sont les données qui vont être à la sortie de cette numérisation à chaque étape? Parce que quand vous numérisez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des capteurs, des senseurs, des instruments qui vous donnent des données à chacune étape des processus de production, de fabrication, de transformation. Et ces données-là sortent de cette numérisation et il faut les capter. Il faut aussi les protéger de la possibilité que quelqu'un d'autre les prenne, et il faut aussi les gérer et tirer le jus maximum sur le plan de l'optimisation du processus, mais aussi sur le plan de la valeur écologique de chacune des données. Je vous donne un exemple. Si vous avez une filière agroalimentaire qui était équipée, disons qu'ils se sont organisés pour utiliser les technologies comme la chaîne de blocs pour numériser l'ensemble d'une filière agroalimentaire. Fort de cette numérisation, chaque entreprise aura donc un certain nombre de données qui sont sur elle, sur sa capacité, sur sa productivité, mais aussi, il y aura des données qui seront partagées. On pourrait aussi mesurer l'empreinte écologique associée à ce qu'on fabrique et ce qu'on transporte. Voyez-vous le lien entre le fait que l'industrie participe à cette démarche de numérisation comparativement au phénomène où chacun des entrepreneurs ou des entreprises le ferait
de manière
chacun
isolée.
De leur côté.
C'est ça,
voilà.
C'est ça.
Alors, quand on le fait de la façon isolée, on sait la conséquence que ça fait du côté des données personnelles. Moi, tout ce que je dis attention, pourquoi ne pas tirer profit de notre expérience qui nous arrive des données personnelles pour avoir un peu plus de discipline autour de la gestion, de la gouvernance des données industrielles et agroalimentaires.
On vous a bien entendu. Je vous propose maintenant d'écouter ceci.
Cette nouvelle régulation apportera un cadre de gouvernance qui garantira que les données puissent être mises à disposition sur base volontaire par les détenteurs de données et soutiendra les espaces européens communs de données. Cela permettra aux entreprises, petites et grandes, de bénéficier d'une part d'un accès plus facile aux données et d'autre part d'une diminution à la fois des coûts et du temps pour y accéder.
Souveraineté des données, sommes-nous maîtres chez nous ? Un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Regnoux.
On vient d'entendre un extrait d'un reportage diffusé sur Euronews le 26 novembre dernier. On y entend la commissaire européenne à la concurrence et la vice-présidente exécutive de l'Union européenne chargée du numérique, Margrethe Vestager, expliquer la portée de la nouvelle régulation européenne qui vise à encadrer la mise à disposition des données et leur partage pour les entreprises. Elle nous dit ça va permettre aux entreprises, petites et grandes, de bénéficier d'un accès plus facile aux données et d'autre part de diminuer les coûts et le temps pour y accéder. Alors c'est une manière d'asseoir un cadre à cette fameuse souveraineté des données de l'autre côté de l'Atlantique. Ici au Québec, ça semble pas vraiment prendre le chemin. On nous annonçait, le gouvernement québécois en l'occurrence, en février 2019, que des 457 centres de traitement informatique dispersés un peu partout dans la province, il n'en restera plus que deux l'an prochain en 2022. Ça veut dire concrètement que 80% des données des Québécois compilées par le ministère et les organismes publics seront stockées sur des serveurs appartenant à Amazon, Google, Microsoft ou IBM. Là, on parle évidemment de données des entreprises, des industries, mais en matière de souveraineté données, on se pose là, on a l'impression qu'on avance un petit peu à reculons, que le modèle n'est pas là. Est-ce que c'est le cas, Henri-Paul Rousseau?
Faut savoir qu'il y a des centres de données canadiens et québécois qui existent en bonne et due forme. Les grandes entreprises, les grands ministères sont capables de se créer des systèmes et des centres de données, comme on pense à Hydro-Québec ou nos grandes institutions financières ou les grands ministères, OK? Et je ne crois pas que nos données sont sur les serveurs et les en hébergement ailleurs. La problématique de l'hébergement des données vient du fait que si vous n'êtes pas une grande entreprise, si vous n'êtes pas un grand ministère, vous allez aller en impartition pour faire la gestion de votre nuage de données, votre système d'information de gestion de la nuagerie de vos données. Et là, vous risquez de faire en sorte que vos données se trouvent sur un hébergeur qui est un hébergeur non canadien. Auquel cas, s'il est américain, oui, effectivement, vos données ne sont pas chez vous.
Mais là,
et ça, c'est un grand ouais. problème, un grand problème, et c'est pour ça que la plupart des grandes institutions financières canadiennes, encore une fois, les grandes sociétés sont capables de se payer des centres de données et des centres d'hébergement à eux. Ce dont on parle ici, c'est pour la moyenne et la petite entreprise, ouais. qui sont nombreuses, et c'est pour ça qu'il
80%.
Faut, c'est pour ça que je parle souvent dans mes écrits d'une Bill James du numérique, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures qui permettraient cet hébergement.
On est bien d'accord, ça concerne effectivement une grande partie du secteur économique, les PME, 80%. Et donc justement, lorsqu'on parle de souveraineté au Québec, le terme a une résonance un peu particulière. On va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais est-ce qu'on pourrait pas tracer un parallèle? Vous parliez de la Baie James, mais est-ce qu'on peut pas tracer ce parallèle entre la volonté dans les années 70 de reprendre en main le contrôle de nos ressources naturelles et celle aujourd'hui de prendre en main le contrôle de nos données?
Non, c'est autre chose. En fait, le parallélisme qu'il faut bâtir, en fait, tous les pays du monde, aujourd'hui, ils sont à l'aube de numérisation qui va s'accentuer et doivent avoir une politique de souveraineté des données au niveau industriel et au niveau des secteurs comme agroalimentaire. Je vous donne un exemple. Dans le secteur du lait, par exemple, nous avons un système canadien de la gestion de l'offre, des quotas. Eh bien, c'est très important de bien gérer ces données-là. Si ces données ne sont pas bien gérées et si elles sont dans les mains de nos partenaires commerciaux, la prochaine fois qu'on va négocier avec eux, ils en sauront plus sur nous qu'on en connaît sur nous-mêmes. Donc, il est très important que dans chacune des filières industrielles, on exerce. C'est une question beaucoup plus économique que politique.
C'est ce que j'allais dire.
Parce qu'on est dans un monde numérique. Et dans ce monde numérique qui s'en vient, encore une fois, le contrôle des données, la gestion des données, la gouvernance des données, c'est...
Elle revient aux industriels.
Elle revient à la collectivité. Alors, les gouvernements sont là pour permettre d'avoir des cadres juridiques, des lois, mais aussi, il faut que les entreprises et surtout les filières industrielles s'organisent entre elles. C'est plus important parce que c'est au niveau... Il y a tellement de différences entre, si vous voulez, une industrie ou une autre et un secteur agroalimentaire ou une autre. On ne peut pas penser que ce sont des trucs communs. Il faut qu'il y ait des trucs qui correspondent aux besoins des industries, secteur par secteur.
Mais vous appelez quand même cette fameuse Baie James, ce que Robert Bourassa
appelle. Oui, ça, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oui, la Baie James numérique, qu'est-ce que c'est? Ben, je le dis brièvement dans un des papiers, c'est d'abord assurer l'accès, la connectivité de tout le monde, à travers tout le pays, donc c'est l'accès. Et deuxièmement, ça va consister aussi d'avoir des infrastructures qui vont être probablement par industrie, encore une fois, parce que il faut protéger le fait que chaque industrie a un côté unique au niveau concurrentiel, et à cause de ça, elle doit avoir des outils qui lui conviennent.
Donc pas une trop grosse homogénéisation, il faut tenir compte effectivement des spécificités de chaque filière, c'est ça que vous nous dites.
Hein. Voilà.
Ça nous mène au concept de fiducie des données, en termes simples, on va essayer d'expliquer ça rapidement. Une fiducie constitue un moyen juridique de gérer les droits relatifs à un objet au profit d'une autre personne. Dans ce cas-ci, l'objet ce sont les données des industries québécoises que on rassemblerait pour en assurer une gestion appropriée, c'est ça la solution que vous privilégiez?
On peut penser que les sous-secteurs s'organisent autour de fiducies qui leur sont propres, encore une fois. Ça serait beaucoup plus facile d'avoir des règles communes pour chacune des filières que de penser d'avoir des règles pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. J'insiste aussi sur le fait que les technologies qui pointent maintenant vers des technologies qui sont de plus en plus utilisées, sont des technologies comme la chaîne de blocs et autres, ont cette caractéristique.
Pour vous, c'est la plus sécurisée, c'est ça, Henri-Paul Rousseau?
Fait, on peut penser, il y a plusieurs modèles de chaînes de blocs, mais il y a ce qu'on appelle les chaînes de blocs privées, qui permettent à une industrie de décider qu'est-ce qui sera partagé, qu'est-ce qui ne sera pas. Et quand il y a nécessité d'avoir confiance entre les joueurs, la chaîne de blocs établit cette confiance en général. Ça, c'est bien, oui.
Donc, c'est plutôt un système participatif que vous appelleriez de vos yeux, de vos voeux, c'est-à-dire
Quand il s'agit de la fiducie, oui, il faut avoir des règles qui sont adoptées par les joueurs de l'industrie. Alors quand il s'agit, par contre, de qu'est-ce qui concerne la capacité concurrentielle d'une entreprise, eh bien là, elle va vouloir protéger ses données.
Mais vous disiez tout à l'heure, il faut bien distinguer les grandes entreprises qui ont la capacité technique de gérer leur base de données de manière sécuritaire et la grande partie des entreprises, les PME en l'occurrence, qui n'ont pas forcément accès à ces serveurs-là et à ces données, à ces éléments de pointe. D'un point de vue sécurité, est-ce qu'il n'y a pas un risque, même si on raisonne par filière, de mettre tous ces œufs dans le même panier?
Non, parce que prenez un exemple encore, si vous pensez à une filière dans l'agroalimentaire, et bien, si vous avez tous les joueurs autour de la table qui se numérisent sur, prenons l'histoire, l'exemple de la chaîne de blocs, ils seront capables de négocier avec un fournisseur et d'avoir des contrôles sur la localisation de leurs données. Et c'est un peu la poule et l'œuf. Hein. Si on a une demande qui est structurée, on pourra aussi aider à structurer l'œuf en conséquence. Le danger principal, c'est qu'on répète dans l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou manufacturière, le même phénomène qu'on a eu dans la question des données personnelles, c'est-à-dire un par un, chaque entreprise, chaque propriétaire de tracteurs, d'équipements, de nouvelles machineries dans son usine, dit oui, j'accepte que la mise à jour soit faite et qu'on oublie les données, eh bien, on va se ramasser dans 10-15 ans dans la même situation où on est avec les données personnelles. C'est ça le cri d'alarme que j'ai lancé, de dire attention, il est en train de se passer un truc qui est très important, il faut numériser, mais il faut numériser avec un contrôle sur notre capacité de contrôler et gérer nos données. C'est la gouvernance des données avec certaines fiducies, comme vous l'avez mentionné.
Mais justement aussi, et on en terminera par là, Henri-Paul Rousseau, les gouvernements européens, canadiens, québécois, ils ont quand même pris les devants pour mieux protéger les informations personnelles de leurs citoyens. Ils se sont réveillés, c'est ce qu'on disait en début d'émission. On a cité le projet de loi C11 au fédéral, le projet de loi 64 au Québec. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi besoin, pour l'atteindre, notre fameuse souveraineté des données industrielles, de privilégier la voie législative? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une loi? On parle de gouvernance, mais...
Je crois pas que ce soit une loi qui va faire ça à court terme. Je crois que les industriels doivent simplement se regrouper autour de leur filière et prendre conscience qu'ils ont quelque chose en commun, qui est la gouvernance des données de leur secteur. C'est aussi simple que ça, aussi compliqué que ça. Mais vous savez, quand les industriels d'un secteur voient qu'ils sont menacés par une réglementation ou par un impôt ou par un changement, ils se regroupent. Eh bien là, ici, c'est quelque chose de subtil. Hein? Chacun achète sa machinerie, chacun achète son tracteur, chacun achète son équipement, et du jour au lendemain, on n'a pas pris le contrôle sur la donnée. Et tout ce que je dis ici, c'est qu'attention, il faut numériser, il faut robotiser, mais il faut le faire avec une gouvernance de données au niveau industriel à tout le moins.
C'est l'appel que vous lancez, peut-être une manière justement de devenir maître chez nous, c'est ça, Henri-Paul Rousseau?
Pour être maître chez nous, au moins dans nos données, quoi.
Merci à vous, Henri-Paul Rousseau. Je rappelle que vous êtes professeur associé à HEC Montréal, professeur invité à l'École d'économie de Paris et président du conseil d'administration de Nouvelia. Votre actualité, c'est une conférence virtuelle du CRAC, le centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce sera le 6 avril prochain, avec un sujet ô combien passionnant aussi, le numérique et l'agroalimentaire, enjeux et perspectives. Merci encore, Henri-Paul Rousseau, d'avoir été avec nous.
Au plaisir, monsieur. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée à la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la coordination plateau, Anne-Sophie Casper, à la direction éditoriale, Jonathan Chodjaï, et à la recherche, Valérie Fortier et Emmanuel Delacour. Merci à notre partenaire, le gouvernement du Québec, pour le soutien actif à la réalisation logistique de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Philippe Regnoux au micro. Souveraineté des données, sommes-nous maîtres chez nous? Pour vous, on l'espère, c'est désormais plus clair. Merci de votre attention.